RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Pourquoi je vous dis « écoutez-moi » alors? Je sais très bien que vous allez m'écouter. Bon, vous savez, le vendredi... Alors, ce n'est pas obligatoirement le vendredi, parce que ça peut être le dimanche après-midi, ça peut être le lundi, ça peut être le mercredi. Vous pouvez m'écouter. Hein? Bon, quand j'aurai le temps, je vous donnerai les horaires et les jours. Hein? Quand même, parce que vous pouvez m'écouter au moins deux fois. Parce que mes émissions passent deux fois dans la semaine. Voilà. Alors, je vous ai concocté, pour les cuisinières, une choucroute. Et ça s'appelle la choucroute de Marrakech. Ah ben oui, oui, là-bas ils font de la bonne choucroute, hein, je peux vous le dire. Hein. Oh, ils mettent pas de porc dedans, mais bon, hein, bon, c'est pas grave. Hein. Alors quand on dit pas de porc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye pas le transport. Alors, ça fait écrit en 2011. Alors oui, je cuisine très tard parce qu'il était 23h31 quand j'ai cuisiné. Oui, parce que les odeurs, tout ça, je ne voulais pas incommoder ma famille qui était couchée avec la porte des chambres fermées, donc ils ne sentaient rien du tout. Parce qu'elle avait une drôle d'odeur, ma choucroute. Vous allez voir d'ailleurs. Enfin, vous allez voir. Je suis con, on n'est pas à la télé. Bon, vous allez écouter, voilà. J'ai une chèvre qui aime le fromage de chat. J'ai un flacon de vin qui préfère être vide, surtout à la fin du repas. J'ai une table qui préfère être dressée plutôt que d'être sans le couvert et enfin débarrassée. J'ai un foie gras qui cherche un maigre repas. Je cherche en vain le vin d'un cru que je croyais supérieur à moi. Ben oui, un cru que je croyais supérieur à moi. Vous savez bien, vin supérieur, vin Bordeaux, supérieur de Bordeaux. Tout, ouais, bon, vous savez très bien comment c'est, vous n'avez qu'à regarder les étiquettes du Pinard. Bon. Alors, j'ai goûté ce qui n'était pas avouable pour le clergé. J'ai trouvé un vin de Bordeaux près de Naples. Une choucroute de Marrakech. J'ai changé mon goût de foie gras contre celui d'un foie que pour un dieu malin. Enfin, d'une foie, pardon. Hein. Bon, pas qu'une seule fois, d'ailleurs. Hein. Bon. J'ai confondu le sein d'une vierge avec celui d'un cierge non allumé. Oh. J'ai penché mes pensées vers le chien de Baskerville à cause des puces désorientées. J'ai retrouvé mes sensations dans le coffre faible d'une banquière qui fricotait honteusement avec le CAC 40. J'ai réussi l'équation entre un lutin et une butinée. J'ai raté le premier psaume d'une liturgie inventée. J'ai retrouvé la jouissance grâce à sainte érection, malgré ma main moins gauche que ma main droite. Ah oui, parce que je suis gaucher. Enfin, pour ce qui est manuel, bien sûr. Sinon, j'écris de la main droite. Ben, vous savez, quand j'étais petit, à la fois les parents, mais les instituteurs, ils nous obligeaient à écrire de la main droite. Ces salauds. Ils ne pensaient pas qu'on n'avait pas le même sens des choses qu'eux. Hein. Par contre, quand je faisais du football, quand j'étais tout petit, je tapais du pied gauche. Et quand je bricole, je tape avec un marteau de la main gauche. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'écris seulement avec la main droite. Bon, après, je suis tellement gaucher de la main gauche que je ne fais pas le reste. Bon, voilà. Bon, alors ça, c'était la choucroute de Marrakech. J'espère que vous avez retenu bien la recette. Hein. Parce que, et Madeleine, n'oublie pas hein, de me faire une choucroute de Marrakech. Hein. Hein, tu m'écoutes? Ben, je t'entends pas. Ah, bon, d'accord. Allez. Bon, ça va, je sais que tu es là maintenant. Bon. Alors... Tiens, du Jean Boussuge, qu'est-ce que vous en pensez, hein, mon ami? Oh, il est toujours avec moi, ce gars, c'est incroyable. Hein. Il y a des copains comme ça, on peut pas s'en passer, même s'ils sont morts. Ben oui, ils sont toujours là, présents. Alors, soit par l'écriture, prenez par exemple Alain Bernard, c'est pareil, il a beaucoup écrit, lui. Bon, c'était un spécialiste de la préhistoire, bien sûr, bon, mais pourquoi pas? Allez, Hugo. Alors, si je dis Hugo, hein, je pense que certains qui aiment lire savent de qui je parle. Contrairement à Victor Hugo, j'espère que sous mes mots, quelqu'un mettra de la musique pour qu'il soit plus féerique. Ben oui, parce que Victor Hugo, au final, personne n'a mis de la musique. Hein. Enfin, on n'en a pas connaissance, en tout cas. Hein. Par contre, je refuse absolument que mes films de court et long métrage, quel que soit le visionnement, soient découpés pour remplir une page, qu'elle soit de publicité ou même télévisée. Donc, il est interdit de prendre un de ses poèmes pour en faire une publicité ou pour le passer à la télé. Hein. Voilà. Et je crois que ça s'est arrivé, c'est jamais arrivé du moins. Hein. Parce que notre Jeannot était quand même pas aussi célèbre que ça. Elle était très célèbre à Périgueux, c'est sûr. Même en Dordogne, on va dire. Ben, je vois pas au niveau national ou international quand même. Hein. Bon, comme moi d'ailleurs. Moi, je suis même pas célèbre à Périgueux, moi, c'est pour vous dire. Je suis célèbre que à RLP, c'est tout. Alors, Victor Hugo, en son temps, se méfiait de la musique sur son œuvre écrite comme nous, maintenant, avons pour des coupures des médias qui nous trahissent plus que ça. Ben, c'est encore un peu comme ça maintenant, les médias. Hein, les médias, ils nous trahissent. Hein. Ils essaient de nous faire penser le contraire de ce qu'on pense. Ce qui fait qu'on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, et on ne sait plus qui est qui. Vous voyez ? C'est ça qui est dommage. Bon, alors, bien sûr, vous avez des gens qui sont, par exemple, en face de vous, comme mon opérateur préféré, là. Je sais qui il est. Je le sais. Et lui aussi, il sait qui je suis. Mais vous, vous ne savez pas, puisque vous ne m'avez jamais vu. Vous connaissez juste ma voix, c'est tout. Et puis mon style d'écriture, bon. Hein. Mais quand je vous lis du Victor Hugo, vous ne savez pas que c'est Méliès Maurice qui le lit. Hein. Ça peut être n'importe qui. Hein. D'ailleurs, j'ai n'importe qui lit du Victor Hugo. Hein. Alors, du texte, un écrit, un poème. Tu peux extraire ce que tu aimes, mais d'un film, quoi qu'il soit, il faut que tu présentes l'ensemble, sinon tu trahis l'œuvre en soi, qui après n'a plus rien de ressemblance. Aussi, mettez de la musique sur mes mots, et si ce que j'écris vous inspire, ce ne sera jamais pire qu'avec Victor Hugo. Mais laissez mes images vous dire dans l'ensemble ce que j'y mets pour ma vie, mon cœur en entier. Voilà. Bon, j'avais remarqué, il ne se prend pas du tout pour Victor Hugo. Hein. Non, moi non plus d'ailleurs. Hein. Bon. Victor Hugo, c'est Victor Hugo. Jean Boussus, c'est Jean Boussus. Mêliez-vous de ce qui vous regarde, c'est mêliez-vous de ce qui vous regarde. Hein. Une bonne fois pour toutes, hein, Madeleine. T'as compris, j'espère. Bon, allez. Alors tiens, je vous ai fait un spécial aujourd'hui. Chanson française. Et on va commencer par Jacques Brel. Et alors, il va nous chanter Bruxelles une fois.
C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles. Place de Brouckère, on voyait les vitrines. Avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus. Avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien. Et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine, dansaient les hommes, des femmes en crinoline. Sur les pavés, dansaient les omnibus. Avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il avait su y faire, elle l'avait laissé faire. Il l'avait donc fait tous les deux. Et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles. Sous les lampions de la place Sainte-Justine, chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus. Avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait, j'ai le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet. C'était au temps Bruxelles chantait, au temps Bruxelles, Bruxelles.
Ben oui, Bruxelles brûlait, n'entende notre cher Jacques Brel. Alors, tiens, Eugène Bizot. Alors, bon, c'est un monsieur qui est décédé depuis un bout de temps déjà. Hein. Et il a écrit naturellement des poèmes. C'était aussi un anarchiste, mais plutôt un révolutionnaire. Hein. Parce qu'enfin, il avait créé aussi une association laïque. Donc laïque, déjà, vous voyez, on met les curés de côté, là, hein, déjà. Hein, on les enlève, bon. Et il a aussi beaucoup travaillé avec sa propre femme, qui s'appelait Anne. Anne et Eugène Bizot, qui étaient vraiment des gens intéressants, parce qu'ils écrivaient, mais ils faisaient aussi des discours, ils faisaient aussi des papiers contre les gouvernements, contre les gens qui n'étaient pas dans la ligne droite de l'humanité. Hein, c'est ça, parce que la ligne droite, on n'est pas obligé d'être dans la ligne droite. Mais de l'humanité, oui, quand même. Hein. Alors, voilà. Et alors, il a un poème. On est deux à avoir ce qu'il a écrit. Et si nous avions de la barbe au menton, et en face de moi, j'ai un barbu, et derrière mon micro, il y a un barbu aussi. Ça fait deux barbus. Billets de banque et papier de chicane. Par qui de nous la finance ricane ? Quand, pour grossir mon immense butin, à nos chantiers nous partons le matin, codes sanglants qui font les populaces de l'esclavage arpenter le béton. Vous voyez qu'il a un côté sacrément révolutionnaire et humanitaire, on va dire. Hein. Nous brûlerions tout cela sur les places si nous avions de la barbe au menton. Oh ben on va pouvoir le faire, nous, alors, tous les deux, là. Hein, on va brûler sur les places. On va brûler les patrons d'abord, hein ? Ouais, ouais. Drapeau souillé par la fange des luttes, qui des vaincus démolissent leurs huttes, képi doré, uniforme, galon, des assassins en rouge pantalon. Ouais, parce qu'avant, les flics de l'époque, ils avaient, donc c'était au début du siècle, hein, fin du siècle, pas celui-ci, celui d'avant, 1900, ils avaient des pantalons rouges, ouais. On n'a jamais su pourquoi. Je crois que c'est parce qu'ils buvaient du vin rouge et quand ils avaient la chiasse, eh bien, ça coulait tout rouge, donc ça ne se voyait pas. Oh, je blague. Oh. Mais non, Madeleine, c'est une connerie que tu viens de te dire, là. Alors, ne prends pas ça au sérieux, quand même. Bon. Alors, pantalon rouge, robe de ceux dont le saint ministère... Non, non. Alors, attention, robe de ceux dont le saint... On aurait dit robe de celles dont le saint. Hein. Donc, ne pas confondre ceux et celles. Bon. Mettez-y un peu de poivre, si vous voulez. Robe de ceux dont le saint ministère d'obscurité noie encore le canton. Nous jetterions tout cela dans la terre si nous avions de la barbe au menton. Ah, ben elle commence à pousser, hein, sacrément. Hein. Oh. Je crois même que je vais en avoir de trop pour faire le Père Noël. Parce que moi, en tant que Père Noël, je veux un nœud papillon. Mais si ma barbe est trop longue, on ne le voit pas, mon nœud papillon. Hein, c'est incroyable. Temple du vol et palais de mensonges, hôtel du vice où la foule se plonge, taudis boueux sans soleil et sans air, prison d'airain de nos villes d'enfer, salle de fête où l'on dresse des tables pour la débauche en bonnet de coton, de tout cela nous ferions des étables si nous avions de la barbe au menton. Ouais. Alors dans les étables, on peut mettre des boucs. Ah oui, vous savez les boucs. Enfin les comment on appelle ça? Ben les boucs. Les boucs, ils ont un bouc. Ben oui. Alors maintenant, ils disent... Alors donc, on peut mettre aussi des livres, parce que maintenant, on appelle ça des books en anglais. Livre se dit book. Alors, on va mettre des livres dans les étables pour que les books puissent lire. Vous voyez, Hein, on arrive à tout, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, traîneur de sable et marchand d'injustice, brasseur d'argent dont l'audace ratisse, les blonds épis par la plèbe glanée, porte-soutane et laquais galonnés, législateur et robin du prétoire, dont Marianne est l'infâme Goton, nous serions mûrs pour le four scrématoire si nous avions de la barbe au menton. Oh non, parce que moi, ma barbe, comme je vais passer au four crématoire, moi, je vais me faire calciner, moi. Hein. Bon, je vais enlever ma barbe, maman, je veux pas que ma barbe, elle brûle, hein, parce que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Comme ma prothèse dentaire, je veux pas la laisser brûler, quand même. Hein. Ça, c'est des choses importantes, c'est ce qu'on appelle de l'humanitaire, vous voyez. Vous donnez votre prothèse dentaire à quelqu'un qu'on n'a pas, vous donnez votre barbe à quelqu'un qu'on n'a pas. Moi, j'ai des cheveux longs, je peux les donner à une femme qui a eu le cancer et qui a perdu ses cheveux. Vous vous rendez compte? C'est quand même vachement important. Et je pars heureux, je me fais calciner. Heureux parce que j'ai fait une bonne action juste avant de partir. Vous vous rendez compte? Comme c'est beau, hein? Bah, faites-en autant, faites comme moi. Enfin, pour les barbus, hein, j'entends. Hein. Bon, allez, tiens, pour la peine, on va se faire un petit Georges Brassens. Je me suis fait tout petit. Ouais, comme moi, 1m85.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout. Et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice, quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Et voilà. Alors, je vais vous lire l'histoire d'un manteau. Ce fut écrit et mis dans mon premier tome de Fleurs de femme de 2003. Mais le poème a été écrit en 2001, même en 2000. Et il fut revisité en 2001. Histoire d'un manteau. La vieille dame regardait sur elle son manteau d'histoire par temps de pluie. Chaque bouton restant était encore une victoire. La trame usée sentait cette bataille de trop de sang et de poussière. Le chien reniflait l'histoire du manteau en cherchant une date à lui donner. La dernière histoire s'accrochait dans sa poche trouée pour ne pas tomber dans l'oubli. On ne peut se méfier d'une histoire amassée quand elle garde encore un accent de vérité. Chacun ira chercher l'histoire là où l'habit ne fait pas toujours le moine. La vieille dame et son manteau repassaient en revue la trame de leur histoire. Le manteau promettait de suivre la vieille dame jusqu'au bout de son chemin. Voilà. Donc, elle allait mettre son manteau jusqu'au bout de son chemin. Voilà. Et donc, ben, ça sera un manteau historique, automatiquement. Hein. Bon, tout dépendra de ce qu'elle a fait dans sa vie, bien sûr. Hein. Oui. Mais c'est bon. Et c'était un de mes poèmes, au fait. Hein. J'avais toujours pas lu un de mes poèmes. Hein. Faut bien que je me serve quand même. Bon, surtout, ben, je peux le faire. Hein. Je suis quand même maître de mon émission. Hein. Je suis pas obligé de passer du Victor Hugo. C'est pas lui qui va m'emmerder pour me dire qu'il faut passer du Victor Hugo. Eh ben, rien que pour la peine, je vais en passer du Victor Hugo. Voilà. Vous voyez, Victor Hugo, il est souvent là. Hein hein, vous voyez, alors là, c'est par exemple, c'est du Victor Hugo fait par Victor Hugo. C'est pas comme Jean Boussuche qui a parlé de Victor Hugo, ça n'a rien à voir. Hein. Mais moi, ça m'arrive aussi de parler de Victor Hugo. Hein. Ben ouais. Le manteau impérial. Alors, je pourrais pas vous dire quel est l'empereur hein, qui avait ce manteau, mais bon, on se doute quand même un peu, hein, vu que c'est du Victor Hugo. Oh, oh, vous dont le travail est joie. Vous qui n'avez pas d'autre proie que les parfums soufflent du ciel. Vous qui fuyez quand vient décembre. Vous qui dérobez aux fleurs l'ambre pour donner aux hommes le miel. Chaste buveuse de rosée qui, pareil à l'épousée, visitez le lys du coteau. Ô sœur des corolles vermeilles, fille de la lumière, abeille, envolez-vous de ce manteau. Rouez-vous sur l'homme, guerrière. Ô généreuse ouvrière, vous le devoir, vous la vertu, aile d'or et flèche de flamme, tourbillonnée sur cet infâme. Dis-tu, pour qui te prends-tu ? Hein ? Maudit, nous sommes des abeilles, des chalets ombragés de treilles. Notre ruche orne le fronton, nous volons dans l'azur éclose, sur la bouche ouverte des roses et sur les lèvres de Platon. Je ne sais pas si on m'en fout de Platon, mais bon, c'est pas grave. Ça veut dire que Victor Hugo le connaissait, Platon. Donc, peut-être qu'ils ont été à l'école ensemble. Peut-être. Oui, mais je crois pas, parce que vu le peu d'histoire de France ou d'Europe que je sais, je dément. Victor Hugo n'a pas été à l'école avec Platon. C'est impossible. Alors que Platon était à l'école avec Victor Hugo, peut-être. Bon, allez, on va aller à suivre. Ce qui sort de la fange y rentre. Va trouver Tibère. Bah, Tibère, il est encore là aussi, lui, tiens, en son antre. Et Charles IX, sur son balcon. C'est un peu plus récent, hein, récent, Charles IX. Hein. Enfin, il dit neuf, mais il n'était pas si neuf que ça, hein. Il était vieux, Charles IX. Hein. Va, pour ta pourpre, il faut qu'on mette, non des abeilles de Limette, mais les seins noirs de Montfaucon. Et percez-le tout ensemble, faites honte au peuple qui tremble, aveuglez l'immonde trompeur, acharnez-vous pour sur lui, farouche, et qu'il soit chassé par les mouches, puisque les hommes en ont peur. Parce qu'il n'y avait qu'eux qui avaient peur des mouches, moi aussi j'ai peur des mouches, moi. Surtout des mouches à merde. Bon, excusez-moi, là, ça a débordé, j'y peux rien. Des fois, ça déborde comme ça. Ça fait un cerveau. C'est pas clos, un cerveau. C'est que il y a des fois il y a des trucs qui sortent du cerveau que vous maîtrisez pas, hein. Ça vous a... Madeleine, ça t'est arrivé toi aussi? Oh. Et alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? ton cerveau a débordé dans le pot de chambre. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Alors, parce qu'en plus, tu prends un pot de chambre pour la nuit. T'es pas assez courageuse pour te déplacer, pour aller faire pipi. Ah, bon. Ah, tu le mets à côté de ton lit. Mais c'est vrai, mais moi, je fais pareil, au fait. Oui, oui, je fais pareil, parce que moi, c'est pour pas faire de bruit que je fais ça. Voilà. Bon, on n'est plus dans la poésie, là. Bon, allez, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je vous promets, je recommencerai pas. Alors, bon, je suis triste quand je vais vous lire ce poème, parce que notre ami est décédé. Hein. Il s'appelait Jean-Pierre Ménard. Ouais. Il est mort il y a pas quelques semaines, figurez-vous. On ne sait pas de quoi. Peut-être d'un infarctus, hein, de l'arrêt du cœur, je ne sais pas. Remarquez, c'est la plus belle mort qui existe, hein, ça. Vous voyez, vous endormez, dans la nuit, plaf, le cœur, il décide de s'endormir aussi. Et le lendemain matin, le cœur ne se réveille pas, et vous non plus. Qu'est-ce que c'est beau. Oh. Alors après, bon, bien sûr, les amis, la famille autour, ça pleure. Mais vous ne les entendez pas. Donc c'est le principal. Vous ne les entendez pas pleurer. Bon, alors, on s'en fout, tout compte fait, qu'ils pleurent ou qu'ils pleurent pas. Le problème est le même, hein. Bon. Bon, là, je suis un petit peu salaud, là. Là, c'est pas du Maurice Méliès, ça, hein, je sais pas. C'est une partie de mon cerveau qui fait pas partie de moi, ça, à tous les coups. Hein. Alors, tiens, ben, ça tombe bien. Le ch'timi de Villevenex. Ah, alors, il était peut-être ch'timi, lui. Oh, ben alors, encore mieux, disons. Il avait quitté la mine et son charbon. Comme mon père, en 45. Figurez-vous. Mon père, en 45, il me reste quoi? Oh, j'ai le temps de le lire, alors. Ouais, parce que, heureusement, mon opérateur, là, mon technicien préféré, il me donne le temps qui me reste pour faire l'émission. Ce qui fait qu'après, je calcule. Est-ce que je passe une chanson de 3 minutes? Est-ce que je passe un peu? Alors, il vient de me dire qu'il n'y a plus que 2 minutes. Oh là là! Bon, si jamais on n'arrive pas à le terminer, je vous le ferai la prochaine fois. Il avait quitté la mine et son charbon, laissé derrière lui les corons du haut desquels on voyait le ciel comme horizon. Il en était d'aller rejoindre les collines boisées où, comme les sillons, coule paisible l'île, le Verne, la Salambre et les rieux peu profonds. Où se cachent les écrevisses et les truites à profusion? Pas de pollution. En ces années-là, point d'engrais, point de pesticides, point de poison. Ce pays bientôt devint le sien et auprès de son épouse, il l'aima avec passion. Cet homme rude, impressionnant par sa silhouette rugueuse, noueuse, sa moustache en fleuron, cachait sous sa carapace un cœur rempli d'amour et de compassion. Il vivait simplement, allant de l'usine à sa petite et accueillante maison, soignant son jardin avec passion, s'enfermant dans la buanderie avec délectation, endroit secret où il ne s'aventurait prudemment qu'avec son autorisation. Et je vais m'arrêter là. Parce que je crois que c'est bon, hein. Ouais, c'est très bon. Bon, je vais bien le noter, là. Je vais faire une petite marque pour vous lire la suite la prochaine fois. Hein. Alors, on s'est arrêté sans son autorisation. Voilà, je note. Bon, là-dessus, je vais vous dire au revoir. Hein. Madeleine, n'oublie pas de me faire une choucroute de Marrakech, hein, s'il te plaît. Hein. T'as la recette, maintenant. Bon, tu ne vas pas me dire... Alors, tu ne peux pas te tromper. Hein. Me mets pas des haricots blancs à la place des haricots verts, par exemple, tu vois. Hein. Allez, je vous aime tous. À bientôt.